Alors aujourd'hui, on va voir la suite, que j'ai appelé Église et mission. On a vu que la confirmation avait toujours pour but, le Saint-Esprit m'est donné en vue de témoigner. Donc la mission, qu'on appelle la mission dans l'Église, ça vient du latin, missio, l'envoi, missus, l'envoyé, le serviteur envoyé. Donc quand on est en mission, c'est qu'on a été envoyé. Envoyé pourquoi ? Envoyé pour témoigner, pour proclamer l'Évangile, pour porter un message. En latin, vous apprendrez peut-être ça, ce qu'on appelait les missi dominici, c'est-à-dire les envoyés du maître. Voilà. Missi dominici, ça s'appelle, à l'armée on appelle ça un chameau porteur, c'est celui à qui on confie quelque chose, comme une boîte aux lettres, parce qu'il n'y avait pas encore la poste, donc on lui confie quelque chose et on dit maintenant tu vas le donner à un tel. Et lui, qui court. Dans Astérix, on voit ça aussi dans les couloirs d'administration, des gens qui courent partout avec des plaques de marbre sous le bras. C'est ça, c'est celui qui va porter le message. Et dans l'Église, l'envoyé, celui qui est en mission, ben c'est celui qui va porter un message. Quel est le message qu'on va porter, nous, dans l'Église ?
La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle. On appelle aussi l'Évangile, la parole de Dieu, le fait que Dieu s'est fait homme, qu'il nous aime, qu'on n'est pas tout seul, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, etc. Qu'il nous a sauvés, qu'on peut guérir du mal qu'il y a dans nos cœurs, qu'on appelle le péché, etc. C'est ça qu'on va dire aux gens. C'est ne désespérez pas, tout va bien. Enfin, tout va mal, mais Dieu s'en occupe. Donc, ça pourra aller mieux. Et puis, vous verrez que si la confirmation, elle nous est donnée donc pour être missionnaire, on dit aussi que la confirmation, c'est un des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Est-ce que vous savez ça ? Donc, quels sont les trois sacrements qui font le chrétien de base, initié ? Sachant que, voilà. C'est comme dans le mot initial, c'est-à-dire le début. Initiare, c'est commencer. Donc, le chrétien de base, c'est quoi ?
Là, il y a le baptême,
oui.
L'Eucharistie,
oui.
Et la confirmation.
Voilà. Donc, dans la confirmation, on vous donne un sacrement qui doit vous aider à témoigner. Donc, des fois, on a envie de dire, oh là là, mais c'est pas mon métier, moi, je ne suis pas missionnaire, je ne vais pas prendre un bateau, aller en Afrique ou en Inde, et puis commencer, ou en Chine, et puis commencer à parler aux gens comme ça, bonjour. Voilà, Dieu s'est fait homme, tout va bien. Ça fait un peu bizarre. Et pourtant, on vous dit en parallèle que ça fait partie de la donnée du chrétien de base. Voilà. C'est pas pour les super-héros qui vont aller évangéliser tous les peuples. Le chrétien de base reçoit le Saint-Esprit en vue de témoigner de sa foi. C'est obligatoire et normal, d'une certaine façon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, dans le cœur du chrétien, dans la mission du chrétien, tout comme dans ce qui constitue l'ensemble des chrétiens, on va appeler ça l'Église, c'est même un peu plus large l'Église, mais en tout cas, voilà, tous ceux qui sont de bonne volonté, tous ceux qui font la volonté de Dieu, eh bien, ils ont normalement en eux la fibre missionnaire, l'élan missionnaire, obligés d'une certaine façon de témoigner. Et moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, ne vous en faites pas, il y a des gens aussi qui viendront vous poser des questions. Ah, mais toi, tu fais ça, etc. Donc, vous serez obligé de témoigner. Si ce n'est pas en allant dire aux gens, en ayant la première parole, de toute façon, vous serez amené à témoigner à l'école en répondant aux questions. Ou aux moqueries, ou aux je sais pas quoi. Voilà. Et de temps en temps, voilà, il y a peut-être des questions qui vous bloqueront, il y a peut-être des situations qui seront très gênantes, etc. Moi, ça m'est arrivé une fois à l'école, d'être dans ce qu'on appelle un traquenard, et on commence à poser des questions, etc. Puis, à un moment, on ne peut plus répondre, ou en tout cas, on est pris vraiment dans un étau. Voilà. Et puis moi, je me suis dit, une petite phrase que j'avais entendue providentiellement 8 jours avant, j'ai dit, enfin, de quoi je me mêle, quoi, foutez-moi la paix. Hop, terminé. On s'enfuit. Ça passe. Ou alors, on peut dire aux gens, mais attendez, c'est vous qui parlez de respect. Respectez-moi, respectez ma religion. Hop, coupe, terminé. On n'a pas répondu à la question, on s'en tire bien. Voilà. Et de temps en temps, vous verrez qu'il y a pas, des fois, il y a des petits éclairs géniques qui vous seront donnés quand vous êtes pris en embuscade et qu'on peut pas sortir. Voilà. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Situation difficile, au-delà de l'ordinaire, touc, un petit coup de pouce pour s'en tirer. Un petit coup de pouce pour témoigner. Un petit truc génial. Hein. Rappelez-vous, dans les histoires là, des 7 dons illustrés, toujours le missionnaire avec son dentier, l'œil du sorcier et le dentier du missionnaire. Voilà, un petit truc génial pour s'en sortir. Alors, je vous ai mis Saint Paul écrit aux Corinthiens, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est cette phrase, on peut dire, et cet état d'esprit qu'il faut essayer de retenir. Aujourd'hui, vous savez, on parle de la nouvelle évangélisation. Il faut réévangéliser l'Europe, les pays qui ont déjà reçu le christianisme et puis qui aujourd'hui s'en fichent complètement. Donc on ne va pas leur dire, ben voilà, Dieu s'est fait homme, il s'appelle Jésus. Enfin, on peut toujours le rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ils croient connaître. Et pourtant, il faut recommencer à leur expliquer, parce qu'aujourd'hui, ils connaissent, on pourrait dire, une caricature ou un peu l'extérieur. Ils ne connaissent pas le fond du message de Jésus. Parce que, on ne voit pas vraiment que ça prenne dans la société. Et puis, pour lancer un peu ce mouvement, en disant aux Européens et puis aux Américains, enfin, aux civilisations un peu européennes, de dire, voilà, occidentales, il faut aller réévangéliser vos semblables. Les papes, ils sont partis de cette phrase-là, de Saint Paul, en disant, vous devez sentir en vous le besoin impérieux, la nécessité d'aller évangéliser. C'est un peu cet état d'esprit qu'il faut avoir. Donc je dis, voilà, Saint Paul écrit aux Corinthiens, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dans ce passage de sa lettre, Saint Paul règle ses comptes avec les chrétiens de Corinthe, que lui-même a évangélisé, c'est lui qui a fondé l'église de Corinthe, qui lui ont reproché d'annoncer l'évangile pour s'enrichir. Saint Paul n'est pas content, il répond. Saint Paul est même hors de lui. D'abord, il leur répond en substance, parce que c'est un peu plus délayé que ça, c'est un peu mieux tourné, mais grosso modo, il leur dit de quoi je me mêle. Voilà. Parce que maintenant, c'est les chrétiens que j'ai évangélisés qui vont commencer à me faire la leçon. Voilà. Saint Paul, c'est celui qui a fondé le plus d'églises chrétiennes partout. Il est évêque. Puis il y a des gens pas contents qui commencent à dire des trucs. Alors là, son sang ne fait qu'un tour. Alors de quoi je me mêle déjà ? Ça remet un peu les gens en place. Et puis ensuite, il répond quand même à leurs attaques. Et il leur dit qu'il prêche non pas pour s'enrichir, mais parce qu'il en ressent le devoir, la poussée intérieure de témoigner de ce qu'il a vécu. Et Saint Paul, c'est effectivement quelqu'un qui a vécu des choses particulières, notamment l'apparition de Jésus sur le chemin de Damas, le début de sa conversion. Il a vu Jésus ressuscité qui lui est apparu. Ben ça vous marque une vie, ça vous marque un homme. Vous vous souvenez aussi qu'est-ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas quand il a vu comme ça le Christ.
Il est devenu aveugle.
Voilà. Pendant combien de temps il est devenu aveugle?
Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui le voit et qui lui a rendu la vue.
Et comment il lui a rendu la vue, celui qui est venu le voir? Ananias, c'était l'évêque du lieu, l'évêque de Damas. Et il fait quoi?
Il
fait autre chose. Oui, et il lui donne un sacrement. Il s'appelle le sacrement de baptême, exactement. Il le baptise et à son baptême, il retrouve la vue. D'accord? L'aveuglement de Saint Paul, c'était un signe qui lui était donné par Jésus. Pas pour le punir, mais pour le faire réfléchir. Saint Paul, il va réfléchir effectivement 3 jours, sans dormir, sans manger. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a appris la Bible par cœur. C'est un très très bon juif, Saint Paul. Il fait tout ce qu'il croit que Dieu demande. La preuve, il ne fait pas simplement pratiquer sa religion, il va aussi persécuter les chrétiens. Et puis après avoir nettoyé un peu Jérusalem, il demande la permission d'aller faire pareil à Damas. Il est quand même assez motivé, Il fait tout pour Dieu. Et puis, il y a Jésus qui lui apparaît. Donc, il se rend bien compte dans la gloire que c'est l'apparition de Dieu qui lui dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et là, il se dit, oh là là, je comprends pas quoi. J'ai l'impression de faire tout ce qui est écrit dans la Bible et Dieu vient me dire que je joue dans le mauvais camp. Donc, ça laisse à réfléchir. Et puis, effectivement, il va se convertir, il va comprendre en quoi est-ce que les Écritures annonçaient Jésus comme étant le Messie. Et il dit, ah oui, ça j'avais pas vu. Et quand on lui demande, est-ce que tu veux être chrétien? Il dit oui, il reçoit le baptême. Et donc, le signe de l'aveuglement est levé. Ben maintenant tu vois. Là tu es dans la vérité. Là tu vois les choses comme elles sont. Avant tu étais aveugle. Voilà. Donc, il y a ce signe-là. Et puis effectivement, ça va être sa conversion. Et puis le début de sa vie chrétienne. Et puis de toute ça. Sa prédication, ensuite de l'évangile. Donc, l'apparition de Jésus sur le mont Damas, voilà ce que saint Paul a vécu, et puis ce qu'il a compris, c'est que Jésus est le Messie, envoyé sauver tous les hommes du péché, et pas uniquement les Juifs. Ça aussi, c'est le gros point difficile, de dire, il y a le peuple élu, donc a priori, si c'est le peuple choisi par Dieu, le peuple chouchouté, tout va bien, tout est pour lui. Et puis, se rendre compte que dans la Bible, c'est pas ça qui est écrit. Il y a écrit, il y a, pour dire, le peuple, effectivement, chouchou, mais il y a les autres qui sont aimés. Il y a un peuple préféré, et il y a les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas aimés. Si vous êtes préférés, c'est que vous êtes un peu au-dessus des autres, mais que les autres existent. Les autres aussi sont aimés. Vous n'êtes pas l'unique objet de l'amour, non, vous êtes le préféré. Et pourquoi est-ce que Israël est le préféré? Parce que c'est le plus petit de tous les peuples. Quand Dieu l'a choisi, il n'y avait pas plus microscopique, 12 familles. Et il a dit, avec quelque chose de petit, plus mon aide, tu feras de grandes choses. Comme ça, tu comprendras, c'est pas de toi que ça vient, mais c'est de moi. C'est le petit plus. Voilà. Qui te fait faire les choses. Et tu rends l'honneur à Dieu. C'est ça le but de l'élection des Juifs d'Israël. Et pour dire, maintenant vous pouvez passer le message à tous les autres, en disant, t'es petit, t'es minable, t'as pas la force, c'est pas grave. Toi, 0,1 plus Dieu, l'infini, égale l'infini. Plus 0,1. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est le plus infini. Si je rajoute Dieu à toi, ça fait de grandes choses. Toi, c'est le sujet. Faut bien que Dieu se pose sur quelque chose. Voilà. Donc t'es pas grand chose, mais c'est pas grave. Demande à Dieu, tu recevras. Et ça, c'est le message qui leur a été confié. Maintenant, ils n'ont pas forcément compris qu'être préféré, c'était être l'unique aimé. Et dans la Bible, il y a effectivement, on parle de toutes les nations qui viendront se prosterner devant le Dieu, etc. Toutes les nations. On viendra du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, de partout, on se rassemblera. De partout, voilà. Il faut que les Juifs les entendent. Hein. Donc saint Paul, il n'avait pas compris ça. Et puis, pareil, en relisant l'Évangile et en recevant des chrétiens la prédication de Jésus, il se rend compte que effectivement c'est ça qui est écrit dans la Bible. Donc, il a l'expérience personnelle de ce qui lui est arrivé. Il peut dire aux gens, mais moi je l'ai vu ressuscité, c'est pas de la blague, je l'ai vu. Donc, voilà. Et puis, il peut aussi témoigner de ce qu'il a compris. Et, mais moi j'ai réfléchi, moi j'ai lu, moi j'ai compris que... Voilà les deux choses qu'il peut dire. Et puis il dit, ça c'est les deux événements ou deux choses que je porte en moi et que je sens la nécessité de dire aux autres. Il leur dit donc qu'il est légitime de se nourrir de son travail, parce qu'on l'accuse de s'enrichir, ce qui ne veut pas dire pour autant s'enrichir. Voilà. Il dit, moi je vous fais des cours de caté, je vous explique la Bible, je fonde ma communauté chrétienne, ça me prend du temps. Donc c'est normal aussi que vous vous nourrissiez en retour, j'ai pas le temps de faire les repas, faire les courses, d'acheter le truc. Voilà, ça ne veut pas dire que je viens pour m'enrichir, mais ça ne veut pas dire que non plus que je viens vous voir pour mourir de faim. Donc voilà, ce que je vous ai demandé, c'est pas pour m'enrichir, c'est juste pour survivre, c'est déjà pas mal. Et de fait, saint Paul en plus avait travaillé de ses mains en évangélisant Corinthe. Alors, dans les Actes des Apôtres, on voit qu'au début, avant de fonder la communauté, qu'il y ait des gens justement qui puissent... le nourrir, mais c'est pas le but, de tant qu'il y ait des chrétiens qui forment la communauté, il a travaillé, il cousait des tentes, il les revendait. Donc, il a travaillé toute la journée, puis le soir, après le travail, il faisait l'évangélisation. Donc, il leur dit, vous moquez de moi, quoi. Vous dites que je viens m'enrichir, c'est précisément chez vous que je travaillais. Et puis, il a fait pareil à Thessalonique. Donc, être accusé de rapacité, de voir un rapace, mais dans ses griffes l'argent, peut alors être un peu énervant, il est vrai. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que saint Paul dit de ses motivations à évangéliser. Il dit qu'il lui faut imiter le Christ lui-même, parce que qu'est-ce qu'il a fait le Christ pendant 3 ans? Ce qu'on appelle les 3 ans de vie publique.
Il a évangélisé.
Qu'est-ce qu'il faisait? Il se baladait. De la Galilée à la Judée, en passant par la Samarie de temps en temps, puis de la Galilée à la Judée, puis de la Judée à la Galilée, puis de la Galilée à la Judée, etc. Donc il a passé, il dira, le Fils de l'homme n'avait pas une pierre où poser sa tête. Pas de maison, toujours sur la route, toujours avec ses disciples, toujours à faire le bien, toujours à prêcher, toujours à guérir, toujours. Donc le saint Paul, il dit, moi, il faut faire, je suis chrétien, je appartiens au Christ, je fais comme le Christ. Le Christ, il a passé 3 ans de sa vie à expliquer l'évangile aux gens, à annoncer la bonne nouvelle, je dois faire pareil. Et puis, en prêchant, dit saint Paul un jour dans la même lettre, Il doit continuer de vivre en chrétien exemplaire afin d'avoir part au paradis qu'il aura prêché. Voilà. Il dit, je m'efforce, vous verrez, c'est ce qu'on lit toujours au début du carême, cette lecture-là, en disant, voilà, je m'efforce de, voilà, je suis comme les coureurs du stade, moi je fais un entraînement pour la course, je fais pas semblant, parce que j'ai qu'une seule peur, c'est qu'après avoir expliqué la vie chrétienne aux autres, si je la pratique pas, ben, tout le monde rentre au paradis, puis moi je vais être calé. On va dire, non, mais toi t'es gentil, tu l'as dit, t'as expliqué, tu l'as pas fait. Donc, très bien, t'as très bien parlé, t'as aidé les autres. Chut. Toi, on connaît pas. Toi, tu ressembles pas au Christ, t'as rien fait. T'as juste parlé, c'était beau, c'était du vent. Voilà, donc il va dire, je dois imiter le Christ, et puis, je veux lui ressembler, et puis après, voilà, je veux aussi vivre en chrétien, et ça, ça fait aussi partie de sa façon d'évangéliser d'une certaine façon. Prêcher et faire. Dans les actes des apôtres, on voit le même besoin impérieux de témoigner de la part des apôtres, notamment en acte 5, chapitre 5. Les apôtres disent devoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et devoir rendre témoignage à la vérité. Je vous rappelle, enfin, c'est l'épisode, je vous ai déjà parlé, hein, où Saint-Pierre et Saint-Jean sont attrapés par les gardes du temple et amenés devant le Sanhédrin, le grand prêtre et tout son conseil, qui a condamné Jésus juste avant, parce qu'ils prêchaient Jésus en plein milieu du temple. C'est un peu de la provocation. Donc on les prend, on les juge, qu'est-ce qu'on leur fait ? Oui ? On les fouette, on les remet dehors, où est-ce qu'on les retrouve ? Dans le temple. Et ils recommencent le compte café. Mais dans le procès qu'ils ont, quand on leur dit il faut vous taire, Saint-Pierre y répond, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il parle aux hommes qui sont censés être les représentants de Dieu. Et il leur dit, ben non, non, là vous êtes à côté de la plaque, mes amis. Toi, t'as beau être grand prêtre et vous êtes vous membre du Sanhédrin, du grand conseil, relisez un peu la Bible, vous verrez que vous n'êtes pas du tout. Je dois obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Gloups, ça peut vexer. Mais chez eux, vous voyez, on voit que c'est un besoin. Et même fouetté, les dos bien labourés, eh ben, on les retrouve dans le temple, en train de continuer. D'autre part, Jésus a bien donné à ses apôtres une mission. À la fin de l'évangile de Saint Matthieu, c'est une des dernières phrases de l'évangile de Saint Matthieu, de toutes les nations, faire des disciples et les baptiser. En réfléchissant à sa propre action, l'Église, au cours du Concile Vatican II, donc 1962 à 65, définit son action missionnaire comme découlant de l'imitation de Dieu lui-même. Au Concile Vatican II, il y a un texte qui a été fait par tous les évêques du monde entier et en présence du pape, avec le pape, pour essayer de réfléchir à l'action missionnaire, faut être missionnaire, comment on est missionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et la réflexion qu'il mène dit que oui, le fait d'aller vers les autres, eh bien ça correspond à Dieu lui-même, à l'être même de Dieu. Parce que dans la Trinité, je veux dire, il y a un mouvement. Dans la Trinité, il y a le Père qui engendre le Fils. Un mouvement. Dieu, il n'est pas égoïste dans son petit coin. Dieu, il est unique. On dit, Dieu, il est seul, mais il n'est pas solitaire. Dieu, il est unique, mais il n'est pas nombriliste. Il n'est pas tourné vers lui. Et au sein même de la Trinité, si on regarde à la loupe, à l'intérieur, ben on voit que le Père, c'est un élan vers le Fils. Et puis le Père et le Fils, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Ils font le Saint-Esprit. Donc il y a comme un mouvement, si on peut dire, en Dieu. Donc nous, ben, c'est normal qu'on ait dans notre cœur la même envie, le même mouvement qui soit imprimé. Après, non plus à l'intérieur de la Trinité, mais Dieu, la Trinité, par rapport à nous. Par rapport à nous, le Père a envoyé le Fils en mission auprès des hommes pour leur révéler le vrai visage de Dieu et les sauver en leur offrant le pardon des péchés. Ensuite, on fait encore un zoom, donc l'être est intérieur de la Trinité par rapport à nous, et puis après on zoom sur la personne même de Jésus. Ce Fils a commandé à ses disciples d'être missionnaires. La dernière phrase de Saint Matthieu que je vous ai mise juste au-dessus. De toutes les nations, faites des disciples. Il n'y a pas d'âge pour être chrétien, ni pour être missionnaire, mais en revanche, il y a un état d'esprit à avoir pour être missionnaire. Il ne faut pas être missionnaire par contrainte. Vous voyez, c'est une obligation, l'abbé Spric l'a dit, voilà, le pape a demandé qu'on réévangélise toute l'Europe, donc voilà, c'est un ordre, on obéit aux ordres, c'est bien, mais vous verrez que c'est pas suffisant, parce qu'un jour vous en aurez marre et vous laisserez tomber. Voilà. Ouais, une fatigue avec leurs ordres, et puis c'est tout. Donc, il faut pas le faire par contrainte, même si on le demande, ça n'avance à rien la personne et ce n'est pas très convaincant pour les autres. Parce qu'on dit, oui, pourquoi tu fais ça? Ben, je fais ça parce qu'on me l'a dit. Ah ouais, super. Vous voyez? On se dira, ah bon, ben, c'est bien, il est obéissant, elle est obéissante. Mais, et derrière, il y a quoi? Bah, c'est tout, on me l'a dit, je fais quoi. Ah oui, mais t'as pas réfléchi à ce que tu faisais. Tu t'obéis, mais qui me dit que t'as obéi intelligemment? Tu peux obéir bêtement, hein, donc. Alors. Ça suffit pas. C'est bien, c'est trop peu. Il ne faut pas être missionnaire comme on donne des leçons. Moi, je vais vous apprendre à vivre de la vraie façon. Parce que l'orgueil n'est pas la marque de Dieu et le donneur de leçons n'a pas d'auditoire. Celui qui passe son temps à expliquer la vie aux autres, c'est bon, quoi. À un moment, t'as assez entendu, quoi. Des reproches, ouais, ok. Voilà. Dis-moi aussi ce que je fais de bien dans ma vie, parce que sinon, voilà, on a l'impression d'être nul. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, hein. Donc, t'entends. Des reproches, ça peut aider, s'il n'y a pas que des reproches. Voilà. Donc, ça aussi, si vous avez l'impression que, et c'est vrai, on a la chance, j'allais dire, d'être chrétien, on reçoit la révélation de Dieu, il vient nous expliquer la façon dont il faut vivre. Il vient nous expliquer la réalité de l'histoire. Il vient nous dire, voilà ce qui se passe sur Terre. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que... Ce que signifie la vie des hommes. Voilà la façon que vous devez avoir de en ayant des relations les uns avec les autres. Aimez vos ennemis. Aimez votre prochain. C'est ça, la règle. C'est pas exploite l'autre, casse-lui la tête, et puis je sais pas quoi. La vraie règle de la vie, c'est celle-là, c'est celle de l'amour. C'est ça qui fait grandir, c'est ça qui amène la paix, c'est ça qui... Ouais. Donc on a la chance d'avoir reçu cette révélation, mais c'est pas parce qu'on nous a dit, et on nous donne la force par la grâce, de mener la vie comme il faut la mener, la vraie vie d'une certaine façon, la vraie façon de vivre la vie, que je dois en faire la leçon aux autres. C'est pas moi qui vais vous apprendre, c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je suis que l'intermédiaire. Moi, je suis le porte-parole. Moi, je suis pas la parole. Hein? Un petit peu comme Saint Jean-Baptiste. Et non, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Moi, je suis que la voix qui crie dans le désert. Après, ce qui est intéressant, c'est pas la voix, hein? C'est la personne qui parle. Donc, voilà. Nous, on doit toujours avoir conscience qu'on a reçu cette révélation. C'est peut-être la vérité, mais n'empêche qu'on n'est pas l'auteur de la vérité. On est le porte-parole. Donc, il faut garder un peu d'humilité. Et puis... Pas simplement ne pas avoir cette intention de donner, de faire la leçon aux autres. Ça, c'est le mauvais état d'esprit et c'est pas ça qu'on appelle un missionnaire. Le moteur de la mission, quel est le bon état d'esprit? C'est la charité dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire l'amour que Dieu a envers moi et que j'ai envers Dieu, qui me pousse à témoigner de mon bonheur, à réconforter ou à conseiller avec les paroles de Dieu qui m'ont moi-même soutenu. Par rapport à Dieu, ben je sens une certaine dette, si on peut dire. Parce que je l'aime, ben je dois, d'une certaine façon, témoigner de lui. Parce qu'il m'aime, et je suis conscient de cet amour, et j'ai compris certaines choses, ce serait égoïste de ne pas dire aux autres ce que j'ai compris. Pas leur faire partager ce que j'ai moi-même reçu. Quelles sont les phrases de la Bible qui m'ont soutenu? Je sais pas, hein, moi, bah, allez-y, hein, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une phrase réconfortante. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Ah, ça va bien. Ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux des champs ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, Dieu les habille très correctement. Les lys des champs sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Donc, on s'inquiète de rien, et puis voilà, Dieu y pourvoira, comme on dit. De toute façon, ça vient de Jésus. Hein. Des phrases comme ça, si j'ai réalisé ça dans ma vie, réalisé que c'était vrai, je peux aussi en témoigner et dire aux autres. L'amour envers mon prochain qui me pousse à l'aider dans ses besoins, à l'éclairer au cours de nos discussions, et l'amour envers moi-même qui me pousse à obéir à Dieu qui compte sur moi pour étendre son influence dans les cœurs de tous les hommes. Maintenant, quelle méthode utiliser? Il n'y a pas de méthode bien préétablie. Sinon, on appliquerait la méthode et puis tout le monde serait converti. Saint-Pierre dit simplement qu'il faut être prêt à rendre compte de notre espérance à qui nous interroge. Soyez toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Rendre compte. C'est-à-dire que la personne, elle vous pose une question. Dans ce cas-là, vous répondez. Hein, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de, d'avoir la première parole, mais vous avez en tout cas au moins l'obligation de répondre à ceux qui vous interrogent. D'une certaine façon, s'ils vous interrogent en cherchant la vérité, hein, celui qui vous interroge juste pour vous bloquer, vous casser les pieds et puis vous se moquer de vous, c'est bon quoi. De toute façon, vous pourrez lui dire toute la vérité, il n'écoute pas, il ne la cherche pas. Celui par contre qui est sincère hein, dans ses questions et qui cherche à comprendre et qui ceci et qui cela, même si la question vous paraît un peu curieuse, si la personne est sincère, il faut répondre. Ça l'éclairera, ça l'aidera à avancer. Donc, répondre à qui nous interroge en étant bien entendu que nous aurons agi en faisant le bien. Parce que si on donne des conseils aux autres et qu'on ne les applique pas, bah, les gens ne vont pas écouter. Oui, mais tu dis ça, mais tu ne le fais pas, quoi. Jésus, il dira, hein, vous allez me citer le proverbe, médecin, soigne-toi toi-même. Tu donnes des remèdes, mais toi, tu es malade. Hein. Ça peut être très efficace, ces remèdes. Hein. Commence par être en bonne santé, après, tu pourras expliquer aux autres comment il faut faire pour être en bonne santé. Donc, si moi, je dis, voilà ce qu'il faut faire et je ne le fais pas, bah, ma parole, elle sera contredite par mes actes. Et lui, il le dit, c'est bon pour les autres, parce que lui, il ne le fait pas pour lui-même. C'est que ça ne doit pas être si bon que ça, ce qu'il nous donne comme conseil. Voilà. Donc, il faut aussi agir en faisant le bien. Et puis, être prêt aussi à répondre aux questions. Donc, Saint-Pierre ne demande pas d'embêter tout le monde tout le temps avec nos histoires, mais il demande d'agir en faisant le bien et de pouvoir expliquer pourquoi nous agissons ainsi. Rendre compte de notre espérance, donc du salut, de la certitude que nous avons de pouvoir aller au ciel, vivre dans le bien, etc., parce que Dieu nous donne la grâce, etc. On peut en effet prêcher par la parole et par l'exemple. Les deux se complètent. Dire sans faire, cela ne convainc personne de la véracité de nos propos. Et faire sans dire, cela ne rend pas un témoignage plus explicite au Christ. Qui dit que je n'agis pas pour me faire remarquer? Si je fais les choses et que je n'explique pas pourquoi, ou que je n'explique pas quelles sont mes motivations, les gens ils vont pouvoir se tromper sur mes intentions. Voilà. Et il faut de toute façon les deux. C'est Saint Jacques hein, qui dit que voilà, il faut témoigner par les actes. Hein. Il dit dans sa lettre, hein, il dit bah, montre-moi ta foi. Montre-moi, tu dis que tu crois au Christ, bah, montre-moi. Moi, c'est par mes actes que je vais te montrer ma foi. Le fait que j'adhère au Christ, je vais te le prouver, non pas par des grands discours, mais par ma façon d'être, ma façon de vivre. Et tu verras qu'effectivement, si je pardonne, c'est peut-être parce que quelqu'un me l'a demandé. Quelqu'un m'a dit que c'était ça, la loi de la vie, c'était ça qui devait régler mes rapports avec le prochain. Donc voilà, agir en posant les questions, agir en expliquant ce qui nous motive. Il faut vivre en chrétien, et puis il ne faut pas hésiter à ce que le témoignage, les gens sachent qu'on agit comme ça parce qu'on est chrétien. Et pas pour failloter, pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on veut une récompense, pas parce que... Donc il faut faire les deux. Dire et agir. Agir et dire. Une question finira par se poser à nos esprits, soit avant de témoigner, soit au bout d'un certain temps, en constatant que les progrès du royaume de Dieu sont lents et modestes. Parce que ça fait jamais que 2000 ans qu'on évangélise le monde entier, et puis... on n'a pas encore, je ne sais pas combien on est sur Terre, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, oh là là, ça m'arrête de grandir, il n'y a pas encore 7 milliards de chrétiens, c'est un peu fatigant. Donc effectivement, on a envie de dire à quoi ça sert, quoi. Alors, on va faire un petit regard sur les 2000 ans d'histoire, justement, de l'évangélisation, 2000 ans d'histoire de l'Église. Au début de l'histoire de l'Église, prêcher dans le milieu juif, puis dans le milieu païen, correspond à la certitude qu'il faut être baptisé pour être sauvé, et que pour être baptisé, il faut avoir été évangélisé, catéchisé, parce que Dieu a mandaté pour cela. Dieu envoie des personnes pour évangéliser, et les personnes qui sont évangélisées acceptent le message qu'on leur donne, et puis acceptent de recevoir de Dieu le baptême pour vivre en chrétien, etc., et être sauvé. Ça, c'est ce que dit Jésus, allez tout d'un seul, baptisez-les, celui qui sera baptisé et croira sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est dit, c'est clair. Et l'Église part sur ce message-là pour évangéliser et baptiser un maximum pour sauver les gens. Le monde connu, ce qu'on décrit comme étant le monde, c'est alors le tour de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Empire romain, et ses frontières avec les peuples barbares. On n'a jamais été voir tellement plus loin qu'est-ce qu'il y a. Donc on voit bien qu'il y a encore des gens qui sont au fond des bois de l'autre côté du mur, mais on n'a pas été voir plus loin, donc voilà. Il y a l'Empire, puis après il y a les barbares autour, et puis on n'a pas encore des cartes de géographie très, très étendues. Mais toutes ces nations se sont frottées, elles sont tapées dessus. Depuis 3 siècles, les Grecs ont envahi l'Orient. Alexandre le Grand, il meurt en moins 330. Et il meurt planète. Il doit mourir en Inde ou quelque chose comme ça. Donc il a quand même bien, il part de la Grèce, il a quand même bien conquis. Bah après, voilà, la Turquie, le Liban, la Syrie. Qu'est-ce qu'il y aura derrière? L'Irak, l'Iran. Donc il faut se rendre compte, puis pareil, quand il passe avec ses armées, il ne sait pas que traverser, chaque fois il laisse du monde derrière lui, on garde le pays qu'on a conquis, on monte une administration, on laisse des soldats, et puis voilà. Donc toute la culture grecque, elle est quand même bien présente ou envahissante en Orient depuis 3 siècles. Quand Jésus naît, ça fait 300 ans que les Grecs sont passés par là. Et puis les Latins, eux, ça fait juste un siècle. Qu'ils ont été casser la tête des Grecs et puis reconquérir leur empire. Donc quand Jésus naît, ça fait 300 ans que les Grecs sont arrivés, pendant 200 ans ils ont régné, et puis 100 ans que les Romains les ont remplacés. Donc ça fait 300 ans de culture gréco-latine. Et quand vous allez au pays de Jésus, en Terre Sainte, vous voyez plein de ruines et de colonnes romaines. Vous voyez les temples grecs, vous voyez les... Voilà. C'est quand même très très présent, très marqué. Et le judaïsme intégrait le grec et le latin. Si vous regardez l'écriteau de la condamnation de Jésus, on vous dit qu'il est écrit en 3 langues. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est écrit en 3 langues. Lesquelles?
La langue des Juifs.
Oui, l'hébreu.
Le grec et le latin.
Voilà. L'écriteau de condamnation, pour que tout le monde puisse bien comprendre, on le met en 3 langues, les 3 langues parlées à l'époque. L'hébreu, la langue du peuple, la langue des Juifs. Le grec, ça restait la langue du commerce, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Et puis le latin, la langue de l'administration, de ceux qui règnent. Voilà. Ça, c'est un indice pour vous rendre compte de ce qui existait en Terre Sainte à ce moment-là. Et donc... Les chrétiens, puisqu'ils sont issus de Jésus, eh bien, ils connaissent, si on peut dire, déjà 3 cultures et 3 langues. Ou en tout cas, ils sont capables, plus ou moins, de parler plus ou moins bien les langues, mais ils vont rencontrer des gens qui parlent ces 3 langues, ou qui existent, qui connaissent ces 3 cultures. Et du coup, l'évangélisation, elle va se faire dans ce monde-là, elle va se faire dans ces langues-là. Ça va se diffuser assez vite dans tout l'Empire romain. Ensuite, à la chute de l'Empire romain, donc en 410 après Jésus-Christ, d'autres royaumes sont découverts, d'autres cultures sont appréhendées, connues, d'autres langues sont apprises. Parce que, souvent, c'est les barbares qui défoncent les frontières de l'Empire romain et puis commencent à s'installer et puis à fonder partout. Donc on se rend compte que ceux qui étaient de l'autre côté du mur, maintenant, ils sont chez nous. Donc, on se frotte à d'autres personnes. Voilà. D'autres cultures envahissent toute l'Europe. Cette diversité des langues et des cultures va s'avérer aussi un facteur de division entre les chrétiens, quand les liens entre l'Occident et l'Orient ne pourront plus être maintenus à cause de l'Empire musulman qui s'étend. L'Empire musulman, c'est à partir du 8e siècle, 700 et quelques, et puis par la conquête qu'ils vont faire, ils vont, d'une certaine façon, couper envahir l'Afrique du Sud, qui jusque-là était chrétienne, et puis ils vont couper aussi l'axe dans l'autre sens, justement, en prenant Israël, la Terre Sainte, ensuite le Liban, ensuite la Turquie, etc. Ils vont couper ce qu'on appelle l'Orient de l'Occident. L'Europe telle qu'on la connaît, la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Et puis de l'autre côté, tout ce qui va être, et le Liban, et puis tout ce qui est plus à l'est, et puis même Israël, la Terre Sainte, etc. Voilà. Il y a la Turquie entre les deux, il y a un empire qui coupe les deux, on ne peut plus envoyer de messagers, on ne peut plus se connaître. Et d'un côté, vous allez avoir des chrétiens, on va appeler latins, parce qui parlent le latin, c'est la langue de référence. De l'autre côté, les Grecs, ceux qui ont le grec comme langue de référence. Ils sont tous les deux chrétiens, sont tous les deux catholiques, mais ils n'ont pas la même langue de référence, ils n'ont pas la même culture. Et puis si on peut plus parler, ça va compliquer un peu les choses. Mais n'empêche que voilà. Les autres cultures, l'évangile se répand aussi dans les autres cultures et dans les autres langues. Et puis, ça va continuer petit à petit à diffuser le christianisme. Parmi les pays où les rois, les premiers baptisés, vous aurez l'Arménie, c'est le premier royaume, premier roi qui demande le baptême. Après, vous aurez la France, Clovis, 496, pas très très vieux, hein. Mais c'est déjà plus un romain, Clovis, c'est un barbare, un gaulois. Et puis un franc. Et puis après voilà, vous aurez la Hongrie, vous aurez la Tchécoslovaquie, vous aurez pas mal de pays comme ça qui demanderont le baptême ou qui accepteront l'évangélisation. Ensuite, une autre grande étape de l'élan missionnaire, il faut attendre un peu plus, c'est la découverte d'un nouveau continent qu'on appelle les Amériques et d'autres façons de rejoindre l'Asie, c'est-à-dire en contournant l'Afrique. Pour ça, hein, c'est les grands explorateurs du XVIe siècle. 15e. Plus tard, l'exploration de l'intérieur de l'Afrique aura lieu. Non, plus tard, c'est plutôt au 19e. Ça. Trois continents sont peuplés de personnes parfaitement étrangères au monde gréco-romain. Ce sont des nouveaux mondes. C'est comme ça qu'on l'appelle américain. J'ai découvert un nouveau monde. C'est des gens parfaitement différents. Voilà, quand je leur parle de Cicéron et de Socrate, ils me regardent avec des yeux ronds. Ils n'ont jamais entendu parler. Jusque-là, dans le monde, tout l'Empire gréco-romain, on a la même culture. Il y a... voilà. Il y a des traits communs. Après, les barbares, eh bien, même quand ils envahissent, etc., ils avaient déjà une frontière commune. Donc ils savaient, on sait toujours à peu près ce qui se passe de l'autre côté. On entend parler des gens, il y a quand même des échanges commerciaux. Là, il n'y avait pas de frontière commune. Enfin, l'Asie était trop loin et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont traversé. Hein. Au Moyen-Âge, il y a un moine franciscain qui est allé jusqu'en Mongolie et en Chine et qui est revenu. Il a fait tout ça à pied. Il y a à peu près toute la vie. Mais il y a eu très peu de rapports entre l'Occident et puis le bout de l'Orient. Et puis une fois qu'on a les bateaux et qu'on fait le tour de l'Afrique, là on commence à faire du commerce, là on commence à connaître des gens, mais on a l'impression qu'ils n'ont aucun rapport avec nous. En tout cas, en culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes passés, on n'a pas les mêmes références. C'est vraiment d'autres mondes. Et on découvre sur notre même planète trois mondes nouveaux, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Cette nouveauté va poser une question aux chrétiens. Alors bien sûr, on va envoyer des missionnaires hein, sur les bateaux, on va envoyer dans les trois directions, mais n'empêche que la question c'est comment est-ce que ces peuples, surtout les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique, qui n'avaient aucune possibilité de connaître le Christ, par voie de terre ni par progrès maritime, sont-ils considérés par Dieu? Ils n'ont pas refusé la foi, puisqu'ils n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant le Christ est mort pour eux. Et là on dit, mais comment on fait? C'est quoi? Comment est-ce que c'est possible que pendant des siècles, Dieu ne nous ait même pas permis de connaître ces autres gens à qui il fallait parler? Aucun contact avec eux. Est-ce que ça veut dire que tous les Indiens d'Amérique depuis des siècles sont tous en enfer parce qu'ils n'ont pas été baptisés? Jésus l'a dit, hein, ce qui croira sera baptisé sera sauvé. Mais là c'est impossible, ils n'ont pas refusé la foi. Enfin, ils n'ont jamais été baptisés et pourtant ils n'ont jamais non plus refusé. Jésus dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais c'est pas qu'ils ne croient pas, c'est qu'ils n'en savent rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se repose des questions. Des précisions théologiques s'imposent. Tous les hommes sont sauvés par le Christ en croix. Ça reste vrai. Jésus, c'est le sauveur de tous les hommes. Ce salut est communiqué, et c'est ça qui est important, la grande découverte, elle est là, ordinairement, de façon normale, par les sacrements, à commencer par celui du baptême. Mais d'autres moyens extraordinaires sont possibles. En effet, l'homme conscient du bien et du mal, vers 4 ans, hein, quand il commence à dire oui et non, et puis s'il sait qu'il obéit, désobéit, conscient de soi, de lui-même, vers 7 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison, il détermine sa vie selon Dieu ou contre lui par ses actes, par ses pensées, ses actes intérieurs, etc. Mais n'empêche que il agit bien ou il agit mal. Donc il ne connaît peut-être pas explicitement Jésus, mais il a la voix de sa conscience pour lui indiquer la voie du bien, qui est la voie de Dieu. D'accord ? Donc il n'est pas totalement laissé à l'abandon, il n'est pas tout seul. Donc même si Dieu a permis que pendant des siècles, il n'y ait pas un seul missionnaire qui vienne sur leur continent, ça ne veut pas dire que Dieu les a laissés tout seuls. Il les a laissés avec leur conscience. Et des gens qui ne connaissent pas explicitement l'évangile, ils ont de toute façon dans leur cœur une petite voix qui leur dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Des fois, voilà, on n'écoute pas sa conscience, puis après on dit ah, c'était pas bien, ah, je suis pas heureux, ah, j'ai peur, ah, je me cache, ah, ça va pas. La prochaine fois, je ferai pas pareil. Souvent, c'est la mauvaise conscience qu'on écoute, plus que la bonne conscience. Mais en tout cas, on entend cette petite voix, et on a beau essayer de se donner toutes les raisons du monde, oui, mais j'avais telle ou telle excuse, oui, mais ceci, oui, mais cela, la voix de la conscience dit ouais, mais t'as été faible. C'est ça que tu veux pas dire. Et tu l'as fait quand même. Alors, t'as plein d'excuses, hein, sauf d'être passé à l'acte. Ça, c'est toi qui as accepté. Et la conscience nous le reprochera toujours. Donc, c'est cette petite voix intérieure que Dieu donne à chaque homme, communique avec chaque homme à travers ça. Alors, c'est pas tout à fait dans le détail. Hein. Avant que la voix de votre conscience ait dit « aime tes ennemis », il y a du chemin. Hein. Jésus, il va perfectionner ça. Mais la voix de votre conscience, elle vous dira « ne fais pas le mal que tu voudrais pas qu'on te fasse. » Ça, elle peut vous le dire. Elle n'ira pas tellement au-delà. Mais c'est déjà pas mal. Et ça, Jésus le dit aussi. Hein. Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Voilà, un minimum d'amour. Voilà. Donc la voix de la conscience, elle peut au moins donner ça. Oui, alors la deuxième chose, je regarde ce que j'ai mis après. Je vous dis, hein, le salut est communiqué ordinairement par les sacrements, à commencer par celui du baptême. Il y a aussi les moyens extraordinaires. C'est-à-dire que Dieu a promis que dans les sacrements, il donnerait quelque chose. Ça, c'est garanti. Quand vous baptisez, je viens dans le cœur. Mon Père et moi demeurerons en vie. Très bien. Il n'a pas dit, nous ne viendrons en lui que par le baptême. Si vous faites le baptême, nous viendrons. Il n'a pas dit, nous viendrons que par le baptême. D'accord ? Donc il y a le moyen ordinaire, il y a le baptême, et puis après il y a ce que Dieu veut. Il y a la liberté de Dieu. Dieu, il s'engage dans les sacrements, il n'a pas dit qu'il ne ferait que les sacrements. Je m'engage à donner dans les sacrements, j'ai le droit de donner plus. Hein ? Dans la parabole des vignerons des travailleurs de la dernière heure, il dit non. Est-ce que c'est parce que je suis bon que tu dois être mauvais et jaloux ? J'ai convenu avec toi que je te donnais ça, je te le donne. Maintenant, j'ai le droit de donner autant à qui je veux. J'ai le droit de faire autrement, j'ai le droit de voir. J'ai convenu avec toi quelque chose et je tiens ma parole. J'ai dit que dans les sacrements, je donnais ma grâce, je la donne. Maintenant, j'ai le droit de faire aussi autre chose, j'ai le droit de donner aussi par ailleurs. Et on va affiner le vocabulaire en disant que ce qu'il faut pour être sauvé, c'est pas tellement le baptême, c'est la grâce du baptême. Ce que Dieu donne au baptême, c'est ça qu'il faut avoir. Qu'on soit baptisé avec la cérémonie de baptême ou pas, qu'il y ait un missionnaire qui vienne mettre de l'eau sur le front en disant je te baptise ou non. Ce qu'il faut, c'est ce que donne le baptême. C'est être uni à Dieu pour être sauvé. Donc le baptême, c'est bien, et c'est moyen ordinaire, c'est ce que Dieu a demandé. Et puis, ça n'empêche qu'il peut donner autrement. Et que peut-être que quelqu'un qui a vécu selon sa conscience toute sa vie, qui a fait le bien, au moment de sa mort, eh bien, sera réuni avec Dieu. Il aura la grâce du baptême, la grâce baptismale, ce que Dieu donne au baptême, être uni à lui, quand il passera de l'autre côté, ou avant de passer de l'autre côté. Voilà. Quand il aura matériellement plus la possibilité d'avoir le sacrement de baptême dans sa vie. Parce qu'il est à 2 secondes de mourir. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut remonter, ce que donne le baptême. Alors, si sans connaître Jésus, ni recevoir les sacrements, on peut être sauvé et aller au paradis, pourquoi nous faisons-nous couper en rondelles par les païens que nous évangélisons ? Ça se finit quand même souvent comme ça. Eh bien, c'est pour leur apporter la plénitude de la connaissance de la vérité et la vie de la grâce, sacrement et prière, qui est tout de même rudement à vivre en faisant le bien. Peut-être que les gens peuvent faire le bien suivant leur conscience, n'empêche que s'ils n'ont pas l'aide de Dieu pour lutter contre le mal en eux et contre le péché, leur pardonner les péchés qu'ils ont faits, etc., pas être gagné, ça va pas être facile. Et puis peut-être que vivre en ne faisant pas à autrui le mal qu'on veut pas qu'il nous fasse, c'est bien, mais Dieu il a demandé plus. La plénitude de la vérité, c'est de pardonner à ses ennemis, c'est de prier pour eux. Oh. Donc ça, il faut peut-être lui dire aussi. Parce qu'il vit à minima, minimum, il vit un peu radibus, mais Dieu il nous a demandé de vivre voilà, pleinement. Donc ça, il faut peut-être lui dire aussi. Ça peut l'intéresser. Donc les moyens que Dieu nous donne, la grâce, l'aide, la prière, enfin, le sacrement, et puis la plénitude de la connaissance de la vérité. C'est aussi pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas rendue vaine, qu'elle soit connue de tous sans tarder, et que les hommes rendent clairement gloire à Dieu. On en revient au début, Dieu ne s'est pas révélé pour décorer, pour faire quelque chose. Que les hommes puissent être sauvés par le Christ, sans le savoir explicitement, ni le demander explicitement, ni rendre grâce explicitement, cela n'empêche pas qu'ils sont appelés à faire tout cela explicitement. Cela n'est donc rien à l'élan missionnaire qui doit nous habiter. Vous voyez ce que ça veut dire ? Les gens peuvent faire le bien sans le savoir, correspondre à Dieu sans savoir, mais n'empêche que si Dieu s'est fait homme, c'est pas pour que les gens vivent comme ça, c'est pour que les gens ils le connaissent. Voilà. On vit pas au minimum, on vit au maximum. C'est ça que Dieu s'est donné la peine de faire, donc s'il l'a fait, on va le faire aussi. Dernier point, pourquoi est-ce que les gens ne se convertissent pas en masse quand on leur dit la vérité, quand on leur propose les sacrements ? On a beau témoigner, on a beau dire, on a beau faire, on a beau avoir 2000 ans d'église, Saint Paul qui a fait la moitié de un bassin parisien à pied, à voile, en calèche, comme il pouvait, voilà, et des grands impôts d'évangélisation, et toujours pas le monde entier converti. Pourquoi est-ce que ça marche pas ? Pourquoi est-ce que ça bloque ? Ce douloureux constat trouve son explication non pas dans l'action de Dieu, qui serait plus ou moins efficace, mais dans la liberté humaine de se déterminer soi-même, et donc dans les dispositions des cœurs des hommes. Jésus l'explique à ses apôtres à travers une parabole, la parabole du semeur. Le semeur, vous savez, il jette le grain, puis le grain, il tombe dans un endroit plus ou moins favorable. Mais c'est le même grain. Hein. Dieu, il donne la même parole, Dieu, il donne la même chose. Vous, vous témoignez devant 30 personnes, il y a 30 personnes qui ont entendu. Ce qui va changer, c'est pas ce que vous avez dit, hein. C'est pas ce qu'ils ont entendu. C'est la façon dont ils le reçoivent. Il y a ceux qui ont le cœur bon, ils cherchent la vérité, ils cherchent à faire le bien, hop, ceux-là, ils engrangeront, ils disent, ah oui, c'est ça que je cherche. Mais à d'autres, la vérité, ce n'ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est eux-mêmes, le fric, la gloire, voilà. Et en avant. Alors ça, faire des efforts, oulala, attends, tu parleras de ça aux autres. Ce qui gêne, c'est ça. Ce qui fait que l'évangélisation, ça marche pas et on convertit pas tout le monde tout de suite, c'est la disposition de leur cœur. Et pour changer la disposition des cœurs, ils ont besoin de notre prière. Pour que Dieu convertisse, change les cœurs. Assouplisse les cœurs, fasse entendre. Voilà. Donc il faut aussi prier pour que ça touche les gens. Le confirmer, on revient à vous, parce que c'est ça qui est intéressant. Le confirmer voit son âme travailler par Dieu pour pouvoir témoigner plus facilement de la vie de la grâce par l'action du Saint-Esprit en lui. D'accord ? La confirmation, c'est en vue du témoignage. Quand c'est au-delà de mes forces, potion magique. Ainsi, armé. Donc on retrouve le vocabulaire du soldat. Il est envoyé en mission pour que son état de chrétien baptisé soit expliqué aux autres hommes selon le désir de Jésus. Confirmation, il faut expliquer aux autres. Il témoigne par sa parole et ses actions, motivé par l'amour de Dieu, en voulant accomplir sa volonté, en participant à l'étendue de son règne dans les cœurs, avec la même charité et la même patience que celle que Dieu a envers chacun. La prière pour autrui est aussi la première forme d'action évangélisatrice. C'est pour le signifier que Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait prié particulièrement pour deux missionnaires, a été nommée patronne des missions alors qu'elle n'avait jamais quitté son couvent. Voilà, ça pourrait dire que la première chose à faire pour être missionnaire, c'est de prier pour que Dieu touche les cœurs. Après, il faut aussi des instruments. Il faut aussi que les gens ils entendent la parole qui leur soit expliquée. Il faut aussi qu'ils reçoivent le récit de la vie de Jésus. Parce que sinon, ça ne s'invente pas. Donc, il faut bien quelqu'un pour leur dire, mais avant, il faut surtout que les cœurs soient préparés. Par une petite histoire pour vous expliquer ça, parmi les missionnaires, il y en a qui sont allés évangéliser les Esquimaux, les Inuits, etc. Donc, pôle Nord. Et puis, ben, c'est des gens, pareil, ils n'ont jamais, c'est d'une autre culture, ils n'ont jamais entendu parler de l'évangile, etc. Donc, il y a des missionnaires qui sont allés les voir, et un missionnaire raconte dans son dans ses récits, hein, la vie qu'il a faite, compte rendu de sa mission, il dit voilà, qu'il avait commencé par prier, enfin par évangéliser les gens, leur parler, apprendre la langue, leur expliquer la vie de Jésus, etc. Puis ça ne marchait pas du tout. Et puis il a entendu parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était morte, mais qui était la patronne des missions, et qui ceci, cela. Alors, il a demandé à recevoir, alors par la poste, par je ne sais pas quoi, des reliques de Sainte Thérèse. Il a dit, est-ce que vous pouvez me donner un petit bout de son corps, ses vêtements, quelque chose. Et on lui a donné, alors je ne sais plus exactement ce qu'on lui a donné, comme relique, qu'il a mise en cendre. Et puis, il a invité tous les Esquimaux à venir dans son igloo, et puis, à, je ne sais pas quoi, à regarder, oh, je ne sais plus quelle était la cérémonie. Voilà. Et puis, il est passé derrière les gens, et discrètement, il mettait un peu de cendre sur la tête de chacun. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Il mettait Sainte Thérèse sur leur tête pour que ça rentre. Voilà. Et puis après, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à écouter ce qu'ils disaient. Voilà, ça fait un peu bizarre comme méthode, mais n'empêche que c'est bien pour vous montrer que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, si les gens ils ont les oreilles bouchées, ça passera pas. Par contre, s'ils ont les oreilles ouvertes, ça ira bien. Et de la même façon, eh bien, il faut prier aussi pour les missions. Vous allez être confirmé, vous allez devenir de grands missionnaires. Et bien la première chose qu'on attend de vous avant que vous ne sillonniez l'Europe dans tous les sens, avec votre bâton de pèlerin, et bien ce sera aussi de prier pour les missions. Et en tant que confirmé, ben vous avez aussi un peu cette charge-là, que je vous dis, que je vous impose, c'est de garder le souci missionnaire. Hein. Le Saint-Esprit vous est donné pour témoigner dans les cas difficiles, et n'empêche que vous devez avoir aussi un cœur de missionnaire. Et donc, priez pour les missions. Priez pour que les gens connaissent le Christ, et notamment chez nous, pour la réévangélisation de la France, la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire la deuxième couche de missionnaires, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus grand chose, hein. Il y a encore une église dans tous les villages, mais les églises sont vides, il manque juste les gens pour écouter, voilà. Et du coup voilà, ayez ce souci missionnaire, parce que voilà, ça fait partie du cœur du chrétien normal. Et puis, ça fait aussi partie aussi des sacrements de l'initiation, d'être confirmé et donc d'être missionnaire. Ça, c'est la donnée de base. Après, si vous voulez aller évangéliser tous les peuples, il n'y a pas de problème, mais attendez d'être majeur. Mais en tout cas, gardez cet élan missionnaire et puis comprenez que la première efficacité, ça va être par la prière pour ouvrir les cœurs. D'abord, travailler la terre. Après, ils recevront la semence. Ça va ? Question ? Pas de question ? Alors, très bien. Je coupe.